Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de votre podcast favori sur la Formule 1. Cette semaine, nouveau changement de coéquipier avec le retour de Stéphane Vrignot. Comment ça va Stéphane ?
Un dinosaure. Voilà, on attend le deuxième la fois prochaine.
Ça va être dur à
très bien. Hein ? Comment t'as trouvé ce Grand Prix ?
Ennuyeux. Et toi ?
Oui, relativement, oui. Malgré le nouveau format mis en place.
On va en discuter.
Et alors, je précise que je me suis régalé la semaine dernière, et en particulier avec l'invité, le préparateur physique. Et on ne rappelle jamais assez, on ne s'en rend pas assez compte que les pilotes de Formule 1 sont des athlètes de haut niveau qui pourraient briller aussi dans d'autres sports.
Tout à fait. Donc, vous vous en doutez, l'émission du jour va être consacrée en très grande partie au Grand Prix d'Azerbaïdjan, même si on va chercher à se projeter sur la suite. En première partie d'émission, on va se repencher sur le duel Pérez-Verstappen, puis évoquer les grosses galères d'Alpine après un nouveau week-end catastrophique pour l'écurie française. Et en fin d'émission, on fera également un petit bilan du nouveau format sprint qui, on l'a déjà un petit peu évoqué, n'a pas franchement tenu ses promesses. Avant de commencer cette émission, on vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, que les meilleurs moments sont à retrouver en vidéo sur eurosport.fr. N'hésitez pas à le noter, à le commenter. On prend toutes vos remarques en compte. Stéphane, on est parti, on perd pas plus de temps, on débute donc cette émission avec ce duel qui nous tient en haleine depuis le début de la saison. Pérez-Verstappen, à toi, à moi, à Bakou c'était le Mexicain le plus fort. Victoire en course sprint le samedi, victoire également le dimanche. Finalement, Stéphane, tout ne se passe toujours pas comme on aurait pu l'imaginer pour Verstappen.
Oui, beaucoup de contrariétés. C'est d'abord une défaite technique, à mon sens, parce qu'on l'a vu en course sprint et puis surtout le dimanche, usure des pneus arrière, prématuré par rapport à Checo Pérez. Ça, c'était assez étonnant. Un DRS qui avait fait merveille le samedi, qui fonctionnait moins le dimanche. Des contrariétés aussi parce qu'il s'est fait bousculer par Russell, on y reviendra peut-être aussi. Donc il devient, c'est pas une cible, mais on sait que maintenant il est vulnérable de par son statut de numéro 1 mondial, qu'il ne peut plus se permettre d'aller au combat rapproché, donc les autres y vont. Donc j'ai trouvé globalement que ce week-end avait affaibli considérablement Verstappen, qui reste le numéro 1 chez Red Bull, mais maintenant il y a un numéro 1 bis qui s'appelle Pérez.
Ouais, on peut y revenir dès maintenant. On a vu quand même beaucoup de nervosité chez Verstappen. Le samedi, avec le contact avec George Russell, il a eu des mots pas très sympas, on va dire ça comme ça, après la course sprint. Le dimanche, il n'était pas nerveux, mais il y a quand même eu une vraie interrogation où il a demandé à Red Bull de faire une analyse précise de ce qui s'est passé en course et la raison pour laquelle Red Bull a décidé de le faire rentrer juste avant l'apparition de la voiture de sécurité. C'est ce qui lui fait perdre l'avantage. Donc on sent un Verstappen beaucoup moins serein et quelque part ça traduit aussi les tensions qu'il y a sur ce duel au plus haut niveau.
Oui, même si en fait, tu vois, par exemple, Verstappen, d'habitude, il aurait grogné un petit peu le dimanche à la radio en disant « je peux pas dépasser », il se serait plaint de plein de choses. Et là, il est resté, je le trouve quand même assez calme. Il a pris sur lui le clan Verstappen et papa Verstappen, Jos Verstappen, qui d'habitude monte au créneau pour expliquer que la défaite est injuste et que il aurait fallu faire quelque chose de plus pour son fils qui a le statut de leader. On l'a pas entendu. Donc ça aussi, c'est un signe. Et puis c'est plutôt là, c'est ce qui m'a surpris, Christian Horner, qui a dit très clairement qu'en fait, les pilotes étaient libres de se battre. Il y a une déclaration quand même assez nette de ce point de vue-là.
Et puis, donc, on le rappelle, classement des pilotes, il n'y a plus que 6 points d'écart. Verstappen est toujours en tête du classement avec 93 unités. Pérez est à 87 unités. On sent quand même que des choses ont changé. On a l'impression, sur un plan technique déjà, qu'il y a eu des vrais changements, parce que l'année dernière, Perez avait quand même beaucoup de mal avec cette Red Bull qui était encore trop lourde. Cette année, on voit que la RB19 est tellement proche de la perfection, si je puis dire, que les deux pilotes arrivent à trouver des réglages qui conviennent. On voit aussi que Perez s'est complètement émancipé de son rôle de serviteur auprès de Verstappen. Ça avait débuté avec la rupture au Brésil l'année dernière. Ça a largement continué depuis le début de la saison. Et puis, il y a quand même une vraie imperméabilité à la pression. On avait déjà eu un aperçu en Arabie Saoudite.
Jeddah, oui, tout à fait.
On pouvait se dire que c'était plus facile, entre guillemets, parce que Verstappen venait de loin et qu'il y avait forcément plus d'usure pneumatique chez Verstappen. Là, quand même, il lui a résisté totalement à la régulière à Bakou. Donc, on sent un Pérez plus que jamais en confiance, plus que jamais convaincu qu'il peut aller chercher le titre. Et visiblement, Red Bull, la foi chez Christian Horner, on a l'impression que ça ne les dérange pas trop.
Ben, Horner dit ils sont libres de se battre tant que c'est dans l'intérêt de l'équipe. Voilà, donc, et il précise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attaquer, ça veut dire, comme dimanche, qu'il n'a pas du tout choqué, hein, toucher les murs. Il fallait quand même de la baraka pour s'en sortir. Perez est allé jusque-là, il est prêt à recommencer, c'est ce que ça signifie. Lui, là, il a sa bonne étoile, il continue comme ça. Et puis, il a envoyé un message à Verstappen, il a dit, moi, avec trois enfants à la maison, ma place, c'est pas dans des avions autour du monde. Mais si je le fais, c'est parce que je crois que je peux être champion du monde. Donc là, ça, c'est parti. Et Horner, pour l'instant, il acquiesce en disant, bah, de toute façon, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Alors, il y a un certain confort par rapport à ça, parce que Red Bull a réussi son meilleur démarrage en 4 Grands Prix dans son histoire. Ils ont combien? Ils ont 180 points. Alors, j'ai noté, il y a une course sprint qui rentre en ligne de compte, donc ça serait 166 points sans cette fameuse course sprint qui dope un petit peu les résultats de toutes les équipes. Et dans ces 166 points, il y a 3 meilleurs tours. Voilà. Donc ça veut dire que là, ils ont fait carton plein, ils ont fait que des top 5 sur les 4 premiers Grands Prix, et il faut remonter quand même à 2011. C'était le seul précédent dans l'histoire de l'écurie avec un tel démarrage. Il n'y a qu'une écurie qui a fait mieux dans l'histoire, c'est Mercedes qui a rentré 173 points avec un point de meilleur tour en course. C'était en 2019, ça veut dire qu'on est sur des bases très très élevées. L'écurie a 93 points au championnat constructeur d'avance sur le deuxième Aston Martin, qui est un underdog qu'on n'attendait pas là. Je pense qu'en fin de saison, ça sera plus Ferrari qui sera devant. Mais pour l'instant, on boit du petit lait chez Red Bull, franchement, et on dit pas de panique, on les laisse faire, tout va bien. Alors, moi, je me pose une question sur le statut de Checo Pérez. Si tu as regardé un petit peu dans la presse qui circulait, on annonce potentiellement un deuxième Grand Prix au Mexique, qui, je pense, ne laisse pas indifférent le promoteur du championnat du monde. Un deuxième Grand Prix, en fait, au Mexique, ça veut dire un autre Grand Prix sur le continent américain, dans la même zone de horaire que les États-Unis. Et quelque part, ben, le promoteur du championnat ne peut que bien voir cette émergence de Pérez, sans quoi, autrement, on s'ennuie. Et franchement, Verstappen serait un petit peu seul au monde. Ça veut dire que Pérez, il commence quand même à prendre du poids dans l'univers de la Formule 1, et on le laisse faire pour l'instant chez Red Bull, et franchement, ça, c'est nouveau.
On a même l'impression qu'il fait tout bien, qu'il ne laisse pas beaucoup de choix à son écurie, qu'il est capable, quand il a des consignes qu'il juge pas bonnes pour lui, on a l'impression qu'il est aussi capable de contrôler son écurie, et ça, c'est une vraie nouveauté, et c'est ce qui peut nous laisser penser que ce duel-là va durer sur la longueur, Stéphane.
Ouais, et puis alors, il a confiance en lui, parce qu'il dit même, je devrais être en tête du championnat. Alors, c'est un petit peu fort de café quand même, parce que il fait une faute en sortant dans le bac à gravier en Q1, je crois que c'était à Melbourne. Et ça, c'est un petit peu sous la pression, parce qu'après 2 Grands Prix où il a ses résultats ont matché avec ceux de Verstappen, il craque quand même assez vite. Heureusement, Verstappen a eu, entre guillemets, un problème de boîte de vitesse à Jeddah, qui l'a repoussé en 15e position sur la grille, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 6 points d'écart. Mais on va aller d'aléas comme ça en aléas, de rebondissements, et ce sont des petites choses à la marge qui vont, je pense, décider du championnat. En tous les cas, moi, j'aurais jamais imaginé qu'on évoque ce sujet après 4 Grands Prix. Et le fait que Verstappen se soit encore battu pour le meilleur tour en course en fin de Grand Prix qu'il n'a pas eu, parce que c'est Russell qui est rentré pour l'avoir. Ça montre encore qu'il sait très bien que chaque point comptera. Et quelque part, il le dit pas, mais c'est pas qu'il a peur, mais il redoute quand même Perez et il le considère comme un vrai challenger.
On a fait le tour, Stéphane, sur ce sujet, ou tu avais quelque chose d'autre à ajouter?
Non.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, peut-être? Il y a Miami qui arrive dès ce week-end, il y aura Imola ensuite. Est-ce que tu vois une tendance entre ces deux pilotes-là?
Alors, je vais regarder juste pour te confier en direct le calendrier, parce que en fait, voilà, je vois qu'on a Miami, on a Imola, et ensuite on a Monaco.
Tout à fait.
Ça veut dire que ce sont deux circuits sur les trois prochains rendez-vous qui sont au calendrier, des circuits urbains qu'apprécie Checo Pérez, et je pense qu'on pourra faire un bilan encore plus précis après Monaco. Et si Checo Pérez tient au soir de Monaco, s'il est même en tête du championnat, on dira là, il va se passer quand même quelque chose, je pense. Donc, Verstappen le sait aussi. Miami, c'est intéressant. Imola, c'est un circuit un petit peu particulier. Monaco encore plus, mais c'est Checo Pérez l'an dernier qui avait gagné Monaco. Et donc, je pense qu'il attend ça avec impatience. Et nous aussi, parce que derrière, hein, c'est vraiment le désert des Tartares.
Voilà, bah on en reparlera, ça sera dans un mois, le Grand Prix de Monaco, donc de toute façon on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais on va passer à notre deuxième partie d'émission pour évoquer une écurie pour laquelle ça se passe beaucoup moins bien à la fois depuis le début de la saison, aussi sur ce simple week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est Alpine évidemment. Des galères le vendredi, des galères le samedi, des galères le dimanche, Alpine qui a eu de grandes difficultés à Bakou, puisque Gasly a fini 14e, Esteban Ocon a fini 15e, en tentant la stratégie de la dernière chance, si je puis dire ça ainsi. On est sur 2-0 pointés consécutifs pour Alpine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Stéphane, tout simplement?
Ça n'arrive pas souvent, déjà, tu l'as dit. Deux week-ends de suite sans points. On peut regarder cette infographie, ce panneau, ça n'arrive pas si souvent que ça. C'était arrivé trois fois en 2017, mais l'écurie était encore jeune. Deux fois en 2019 et une fois l'an dernier à Monza et à Singapour, un circuit urbain. Et là, cette année, voilà, au bout de quatre grands prix, on a aussi une doublette sans points. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on pensait que ce serait plutôt les pilotes qui poseraient problème en termes de management, une rivalité française. Et puis, c'est quand même un petit peu, non pas, je dirais, le matériel, mais un petit peu la préparation. C'est des petites erreurs, mais vraiment, et qui coûtent très cher. Vraiment, on est là-dedans. Vendredi matin, c'est un problème d'installation du circuit du système hydraulique qui cause un incendie sur la voiture de Pierre Gasly. Alors, changement de V6, des récupérateurs d'énergie, du turbo et même de l'échappement. Et
oui, parce qu'il a eu droit à une...
À la totale. Alors ça veut dire que tu tapes déjà dans ton quota et on ne sait pas où on est, dans quel état est le moteur. Je pense qu'il a pu être sauvé. Ce n'est pas un incendie qui peut détruire un moteur, mais on commence à battre des jokers. Alors, il y a beaucoup d'autres écuries qui ont installé des nouveaux groupes propulseurs, mais... le nouvel ensemble d'échappement a été défaillant aussi en qualif juste après. Et c'est pour ça que Gasly a jeté l'éponge. Et puis, pour Ocon, c'était aussi un problème de préparation, je dirais, qui est surprenant à ce niveau-là quand même. Et un problème de montage de boîte de vitesse qu'il a laissé au stand. Alors, ça veut dire que Gasly a fait 7 tours de préparation pour tout le reste du week-end, hein, parce que on a d'ailleurs appelé ça essai libre 1, mais il n'y avait pas d'essai libre 2, donc j'ai pas compris. Et après, c'était l'enchaînement qualif sprint, qualif du Grand Prix, pardon, qualif sprint, le sprint, le Grand Prix. Et Gasly a fait 7 tours, Ocon 8 pour préparer tout le reste. Et Alpine a dit, bah oui, effectivement, on a fait 15 tours pour tout ça. Et c'est le deux fois moins, voire trois fois moins que ce qu'a fait la concurrence pour aborder la suite du week-end. Et je dirais que là, c'est la double peine, forcément. Mais ce week-end était important. On sortait d'un mois de break et on pensait que tout le monde serait focus. Ce n'était pas exactement le cas. Alors, tu as bien noté que le tour n'a pas monté chez Alpine. On est resté, c'était pas la panique, hein, on est resté bien concentré. Mais simplement, le boss, Otmar Szafnauer, a dit bon, il ne faut plus répéter ce genre de performance, ou je dirais plutôt de contre-performance.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de méthode couée quand même chez Alpine? Je m'explique. Effectivement, il y a eu 2 zéros pointés consécutifs, mais on est sur 2 Grands Prix totalement différents. Il y avait vraiment des performances très encourageantes à Melbourne, et puis il y a eu ce crash malheureux après une succession d'incidents. Là, vraiment, Alpine n'était pas au niveau. Et pourtant, on a l'impression qu'on continue de chercher à se rassurer chez Alpine, à se raccrocher à des branches. On a l'impression peut-être qu'Alpine se repose sur des acquis qu'elle n'a pas vraiment. Pourquoi ? Parce que elle continue de s'encourager en disant à Melbourne, on était dans le rythme, on était capable de se battre avec les meilleurs. Mais quand on écoute les autres écuries, on comprend bien que Melbourne était un petit peu une parenthèse. Parce que circonstances de course différentes, parce que circonstances de piste aussi différentes, avec une très faible usure des pneumatiques. On se justifie aussi en se disant on est capable d'évoluer très vite, d'ajouter du développement assez rapidement. Et d'ailleurs, Alpine est arrivé avec un nouveau plancher à Bakou. Il y a de nouveaux développements qui vont arriver dès le week-end prochain à Miami et même à Imola 2 semaines plus tard. Donc on se réfugie derrière ça aussi, et pourtant, finalement, ce qui a fait défaut l'année dernière pour Alpine, c'est-à-dire la fiabilité, continue d'être un vrai problème cette saison. On l'a encore vu vendredi, tu l'as expliqué en tout début de partie. Moi, j'ai peur que le point de vue que prend Alpine ne soit tout simplement pas le bon, et qu'il n'y ait pas assez d'exigence envers elle-même.
Moi, ça tient un petit peu dans cet objectif. Tu t'en souviens, fin 2021, Alpine a dit « À partir de maintenant, on se donne 100 Grands Prix pour revenir au sommet. » Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire exactement, si on visait carrément le titre mondial ou une victoire, mais ils avaient déjà remporté un Grand Prix dans la saison, et ça, c'était fait. Mais je trouve qu'on est un petit peu complaisant, en tous les cas, pas assez agressif, je trouve, par rapport à ça, parce que Aston Martin donne le bon exemple. Ils ont fait un bon spectaculaire cette année. Et la réponse, elle est dans le design de la voiture, la force de l'écurie. Et c'est vrai que autant on voit qu'il y a un turnover dans les autres équipes. Alors, Fred Vasseur disait par an, à peu près, c'est 6-7% des personnes. Mais parfois, il y a des gens qui sont importants à changer parce qu'il y a des départs spectaculaires. Et là, chez Alpine, en fait, ça tout roule. On a l'impression qu'ils sont maintenant arrivés à une équipe qui est stable, je dirais, et qui doit maintenant travailler. Mais moi, je trouve que la progression n'est pas assez rapide par rapport aux autres. Ouais. C'est ça un petit peu qui me gêne. Et je me souviens même de la progression qu'avait eu Renault en revenant en Formule 1 en 2002. Ils avaient dit on vise le titre en 2006. Ils avaient commencé par pointer la 4e place au championnat, puis la 4e place, et c'est marrant, c'est le même objectif cette année, la 4e place, mais plus près du 3e. Puis après, c'était, on va essayer de gagner plusieurs Grands Prix de la saison et le titre. Et ils avaient eu un an d'avance quand même sur leur tableau de marche. Alonso et Renault avaient eu les 2 titres en 2005. Et là, je trouve qu'on est dans un entre-deux où on ne va pas assez loin. Je ne sais pas que ça manque d'ambition, mais... C'est pas que c'est... Bon, on n'est pas plan-plan, hein, forcément, hein, c'est évident, mais on est un peu sur la retenue, et je sais pas si on se voit comme on est, mais je pense de toute façon qu'au soir de ce week-end, ça a dû quand même un petit peu... On a dû dire les choses, parce qu'il faut resserrer les boulons, et que Miami, ça arrive tout de suite, et que là, en fait, ils ont pris leur dernier joker. Point.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi un argument utilisé par Alpine. Le fait que la voiture soit plus performante que celle de l'année dernière, ce qui est vrai, il y a eu une progression, mais tu l'as dit aussi, la concurrence a progressé encore plus vite. Et donc finalement, Alpine est très loin d'avoir fait son retard. Et quand on voit le classement constructeur, aujourd'hui, Alpine se bat plutôt avec Haas, qui est à 7 points, c'est-à-dire un point derrière elle, plutôt qu'avec Ferrari, Mercedes, Aston Martin, qui sont déjà très loin. Et même McLaren, qui a fait un début de saison, on peut le dire, catastrophique, est déjà à 14 points. Donc, on a plutôt l'impression que McLaren maximise ce qu'elle peut maximiser, alors qu'Alpine, c'est un petit peu tout le contraire. Et donc, pour moi, c'est ce qui est le plus inquiétant. Et il faudra, je pense, une réaction immédiate à Miami pour essayer de dissiper les doutes.
Puis, vraiment aussi, s'obliger au zéro faute de la part des pilotes, parce que c'est Pierre Gasly qui fait une erreur en qualification. Q1. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, il gâche la qualif. Ça fait qu'il part avant-dernier, je crois. Et Ocon est assuré de partir de la pit lane. ils ont peut-être pas compris le règlement, mais c'est pas une grille inversée, hein, clairement. Mais c'était désolant de les voir comme ça. Et puis c'était la double peine parce que ça condamnait aussi Ocon à partir dernier à cause là encore d'une intervention obligatoire sur l'arrière de la voiture pour la suite du week-end. C'est dur. Hein. Alors après dimanche, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tout le monde était sur un arrêt. Ils ont mis Gasly sur deux. Ils ont attendu qu'il y ait une intervention de la voiture de sécurité qui n'est pas venue, une seconde intervention.
Ce qui était une bonne idée.
C'était pas extravagant. C'est ce qu'il fallait faire parce qu'il est, il a navigué autour des places 7-8. Mais il roulait quand même dans le même rythme que Hülkenberg. Ce qui est un petit peu embarrassant quand même. Mais bon, moi j'ai envie de les défendre sur Melbourne. Parce qu'on peut dire, oui, que c'est un Grand Prix particulier, mais il faut anticiper les conditions de piste qui sont peu ordinaires. Il faut adapter son matériel. Ils ont très, très bien su le faire. C'était remarquable ce qu'ils ont fait. Et moi, je dis que ça donne des motifs d'espoir quand même. Et quand il faudra s'adapter à une piste un petit peu particulière, à Monaco, le grip évolue beaucoup, etc. On sait comment c'est. Eh bien, je pense qu'Alpine sera quand même là.
Un petit dernier mot encourageant pour l'écurie française. On verra ça à Miami dès ce week-end. On va passer, Stéphane, à quelque chose qui risque de t'énerver un petit peu, de t'agacer un petit peu. Ce nouveau format, on en avait discuté la semaine dernière. Ça n'avait pas été encore confirmé. Là, on y a eu droit. Donc, on le rappelle, séance d'essai le vendredi matin, qualification pour la course du dimanche le vendredi après-midi, qualification sprint le samedi matin et course sprint le samedi après-midi. Stéphane, est-ce que, je te pose la question, je mets les pieds dans le plat d'entrée, est-ce que ce nouveau format t'a convaincu ? Est-ce que tu préfères même ce nouveau format à l'autre format sprint qu'on avait vu jusqu'à présent ?
J'ai eu l'impression de vivre un Grand Prix sur deux jours, comme on a eu à Imola, il y avait une expérience tentée. Tout concentré sur le samedi et dimanche, parce que finalement, cette journée consacrée au sprint, c'est un petit peu une bulle, quelque chose à part, qui n'avait pas d'impact sur la suite. Et ça ne découlait pas du vendredi, ça n'avait aucune incidence sur le dimanche, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Voilà, et moi, je suis resté sur ma faim. Alors, le circuit de Bakou, normalement, était prometteur. Ouais. Pour ça, devait donner du spectacle. C'est pour ça, je pense, qu'on l'a fait.
Totalement.
Et ça a fait pchit, très clairement. C'est la preuve, en fait, que le spectacle ne se décrète pas, qu'on reste dans le sport, qu'il faut l'accepter. Et là, on est au bout du bout, c'est-à-dire qu'on met de côté le sport en disant « Vous allez avoir du spectacle », mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut savoir un petit peu rester sur sa faim de temps à autre. Faut l'accepter, c'est inhérent au sport. De temps en temps, on a un Grand Prix un petit peu décevant. C'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai noté, par exemple, que le top 8 était figé après le tour 19 sur 51. Donc, il s'est rien passé après. Voilà, tout simplement parce que il n'y a pas eu, en fait, de deuxième voiture de sécurité. Et si tu regardes bien sur la liste des abandons, il n'y a que deux abandons. Et en regardant les statistiques de cette édition à Bakou, y compris Grand Prix d'Europe, donc de 2016 à 2022, on avait en moyenne plus de 5 abandons par course. Donc ça tapait, il y avait des incidents, donc on faisait rentrer la voiture de sécurité. Et là, en fait, je pense que c'est venu en partie de ça et du fait que c'était une course à un arrêt, que très vite, les concurrents ont mis les mêmes pneus, donc tout le monde a fait la même chose. Et quand tout le monde fait la même chose, on voit ce que ça donne. Bah, en fait, tout le monde reste à sa place. Et alors, il y a eu des trains DRS, mais qui n'aboutissaient à rien. Et Hamilton a dit, il y aurait eu 100 mètres de zone DRS de plus dans la grande ligne droite. Je pense que ça n'aurait rien changé. C'était profitable au Red Bull et encore dans une... pas tout à fait pour Verstappen, mais c'était profitable au Red Bull. C'était censé aider les autres équipes, les autres voitures à dépasser. Ça n'a pas été le cas. On a vu des pilotes rester 15, 20 tours derrière d'autres concurrents. Avant de doubler, je vois Norris, par exemple, 31 tours derrière Hülkenberg, avant de bénéficier d'une erreur. C'était même pas du DRS. Voilà. Donc, tout ce petit package-là qu'on nous a mis en place, on nous expliquait que ça serait formidable, que ça serait du spectacle sur commande, eh bien, ça a échoué lamentablement.
Voilà. Alors, quelques chiffres quand même pour préciser. On a eu 20 dépassements au total sur la course sprint, 23 sur le Grand Prix. À titre de comparaison, on en avait eu 23 l'année dernière également. Et sur les premières années, donc à partir de 2016, on était à 80, 2017 48, 2018 58. Donc, on a bien vu que finalement, et c'est quelque part un petit peu rassurant, que ce qui fait le spectacle, bah, ce sont les pilotes, ce sont les écuries, ce sont les acteurs qui sont au cœur de la course, et certainement pas ceux qui décident d'inventer des nouveaux formats, des nouvelles règles, pour essayer de faire quelque chose d'artificiel. Et j'ai même l'impression, mais je pense qu'il faudra qu'on le voit sur d'autres courses, que finalement, le peu de préparation qu'ont eu les écuries, bah, ça n'a pas aidé finalement au spectacle, parce qu'on a vu certaines écuries improvisées, on a vu certaines écuries, improvisées sur ce qu'ils voyaient de la dégradation des pneumatiques notamment. Tu l'as évoqué aussi, je pense que le fait que le pneu ait eu une faible dégradation, bah, ça n'a évidemment pas aidé le spectacle. Et j'ai envie de dire que de toute façon, un Grand Prix ennuyeux, ça fait aussi partie de la F1, tu l'as aussi évoqué. Et pour moi, ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'on s'inquiète justement qu'il n'y ait plus de spectacle sur certains Grands Prix. Ça a été le cas de Toto Wolff qui, tout de suite après la course, a dit « Il faut vraiment qu'on analyse, qu'on regarde ce qui s'est passé, pourquoi on a eu si peu de spectacle, hormis la petite bagarre Red Bull en tête, et encore qu'il n'y a pas eu de dépassement pour la victoire. » Mais ça fait partie de l'essence de la F1 de s'ennuyer, et c'est ce qui fait que justement, bah, quand il y a un Grand Prix qui est extraordinaire, et bah, on s'en souvient. Tout ce qui est rare et précieux, ça c'est une déclaration chère à notre rédacteur en chef Maxime Dupuis. Et finalement, bah, c'est très bien qu'on s'ennuie sur certains Grands Prix, et je pense que c'est une belle ironie tout ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça démontre qu'on ne choisit pas le spectacle, ce sont les acteurs qui le font tout simplement.
Oui, et j'ajouterais que Wolff peut se replonger un an en arrière lors de la dernière édition du Grand Prix à Bakou, où ses voitures avaient été prises de marsouinage, où il avait commencé vraiment, enfin, intensifier sa campagne de lobby pour rehausser les planchers, pour faire en sorte que sa voiture spécialement marsouine moins. Et la conséquence, c'est que fatalement, les voitures pourraient moins se suivre, on le savait, en 2023, l'une derrière l'autre, et puis ensuite s'attaquer. Donc à Bakou, il y a ce fameux virage numéro 16 là, qui est un grand virage qui donne ensuite sur qui débouche après un pif pas sur une grande ligne droite. Voilà, donc c'est là que c'était peut-être plus difficile que les années passées encore de dépasser. Donc il a un peu fabriqué le problème, mais maintenant il le dénonce. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Et puis même effectivement cette course sprint qui 17 tours avec peu d'essence. C'était même pas une simulation de premier relais de course parce qu'il y avait peu d'essence dans la voiture. Donc c'était plutôt un dernier relais de course qui n'était pas un dernier relais parce qu'il changeait pas de pneu à 17 tours de la fin. C'était complètement bizarre. Et les pilotes pouvaient en tirer quand même des enseignements assez limités parce qu'ils n'allaient pas retrouver de toute façon ces conditions-là et encore plus en pneu tendre à la fin du Grand Prix dimanche. Donc j'ai pas bien compris. On aura dit que c'était assez dingue de décider de faire une course sprint à Bakou, étant donné la perspective de casse qu'il y avait, et spécialement dans cette course sprint où il y aurait pu avoir deux ou trois coups de tampon dans les murs, et puis avec autant d'interventions de la voiture de sécurité, donc ce qui aurait gâché en fait le spectacle sprint, ouais, prévu. Donc c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. J'ai pas bien compris, mais je dirais que ce qui est un petit peu décevant dans tout ça, c'est qu'on nous fait vraiment croire que c'était mieux avant. Alors on a des références quand même dans un passé récent, on est spectateur de temps en temps aussi, c'est-à-dire qu'on s'installe et puis on a envie de savourer du spectacle. Et moi, j'ai regardé juste le programme d'une année 1985. Ça a dû être en place jusqu'au début des années 90 à peu près, mais voilà ce qu'on avait comme spectacle. Le vendredi et le samedi, c'était 90 minutes, donc une heure et demie d'essais libres, plus une heure de qualification. Le vendredi et samedi, on faisait le mix après pour faire la grille de départ. Donc, c'était intéressant. Il y avait déjà de l'action le vendredi et le samedi. Et puis, le dimanche, tu avais un warm-up d'une demi-heure. Et pour les gens qui ne pouvaient pas être 3 jours sur place sur un circuit, bah, ils avaient quand même cet avant-goût déjà, l'excitation. À 9h ou 10h, il y avait une demi-heure, on voyait tourner les voitures avec le plein d'essence, c'était autre chose, c'était du travail. Et puis, on sentait la pression monter et puis arriver le Grand Prix. Et là, bien en fait, c'était 7 heures au total de roulage. Et dans le format de week-end avec course sprint de 2023, on a une heure de roulage essai libre le vendredi, une qualif d'une heure. Le samedi, une course sprint d'une demi-heure et un sprint lui-même d'une demi-heure. Hein, je vous parle du temps de piste, voilà, de voiture. Et le dimanche, le Grand Prix d'une heure et demie standard. Ce qui fait qu'on tombe à 4h30 de spectacle et on nous dit aujourd'hui que c'est mieux. Bon, moi, j'avais plaisir, sous l'ancien format, à rouler les voitures. On en avait... Je dirais pour notre argent, et là, on est en train de nous expliquer que c'est mieux. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit aussi, le prochain Grand Prix à Miami en est l'exemple. Les prix montent de façon spectaculaire.
J'allais y venir.
La F1 devient un produit de luxe, et on dit de plus en plus aux fans, restez sur vos écrans, chez vous, vous allez être très bien. Ou alors, vous allez payer pour voir un endroit vraiment intéressant sur la piste. Sinon, vous aurez le reste un petit peu du circuit. Parfois, on ne voit pas grand-chose. C'est à ça maintenant qu'on est tenu. C'est regrettable. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion autour des patrons d'équipe qui se fait en disant « ça a quand même été décevant à Bakou. Est-ce qu'on doit continuer dans cette voie-là » Il y aura 5 autres sprints cette année, pas sur des circuits urbains, c'est déjà ça. Mais est-ce que le nouveau format est bon?
Voilà. Je crois qu'on a fait le tour, on a été très complet sur le sujet, on a l'impression qu'on a un petit peu touché les limites du format, et effectivement tu parlais des prix des places, je vous invite à aller checker le prix des places pour le Grand Prix de Miami ce week-end, c'est
extravagant,
de la folie tout simplement. En tout cas, nous on ne sera pas à Miami parce qu'on n'a pas les moyens, mais on sera là la semaine prochaine, mardi prochain, pour débriefer évidemment le Grand Prix de Miami. Ce sera Gilles, je crois. Tu es là, Stéphane, mardi prochain? Je crois pas.
Non.
Et ça sera Gilles avec moi.
Un autre dinosaure,
Jurassic Park, on le disait. Merci à tous de nous avoir écoutés. On rappelle que vous retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que vous retrouvez les meilleurs moments en vidéo sur eurosport.fr. N'hésitez pas à nous noter, à commenter. On prend un maximum de vos réflexions en compte. Stéphane, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite un bon Grand Prix de Miami. Et d'ici la semaine prochaine,
on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.